Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle et je suis encore très content de vous retrouver cette semaine. Trois invités cette semaine en plein cœur de la trêve internationale et on va commencer en Allemagne où on va continuer de débriefer ce qui s'est passé entre les Bleus et la Mannschaft samedi soir, défaite 2-0 des Bleus. Et avec notre spécialiste allemand David Lortolari, on va tout simplement se demander comment la presse allemande a analysé cette piètre prestation de l'équipe de France. On ira ensuite en Angleterre rejoindre Philippe Auclair. Il y avait un très beau match en même temps que France-Allemagne, c'était Angleterre-Brésil, défaite 1-0 de l'Angleterre face au Brésil. Question un peu provoque, voit-on l'Angleterre trop belle? On va la poser à Philippe. Et puis on terminera en Espagne avec Ana Caro qui va nous parler de ce qui s'est passé pour l'Espagne contre la Colombie rapidement, mais qui va surtout évoquer la rencontre entre Endrick et son futur public du Santiago Bernabéu. La pépite brésilienne rejoindra le Real Madrid cet été. Y a-t-il une hype autour de lui? On va demander ça à Ana qui va aussi nous toucher un mot du joyeux bazar qui se passe du côté de la Fédération Espagnole de Football. Voilà pour le programme. Le rappel habituel, c'est que Tour d'Europe, vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club. Et puis, comme chaque semaine, vous aurez sur le site eurosport.fr les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Voilà, on est prêt, on peut y aller. On commence donc ce Tour d'Europe en Allemagne, où on va continuer avec notre spécialiste du football allemand, David Lortolari, de débriefer ce qui s'est passé samedi soir à Lyon entre les Bleus et l'Allemagne. On le rappelle, défaite 2-0 de l'équipe de France. Salut David, j'imagine que la soirée de samedi a été intéressante pour toi, pour l'Allemagne du foot aussi. Et justement, c'est l'objet de ma première question un petit peu franco-française. Mais avant de se concentrer sur ce qui se dit autour de l'équipe de Julian Nagelsmann, ma première question concerne la vision de la presse allemande, du football allemand. Comment est-ce que cette prestation de l'équipe de France très décevante, la presse française a été très dure, et bien comment cette prestation a été analysée, décryptée du côté de l'Allemagne, David ?
Salut à tous. Alors, plusieurs petits éléments. Une surprise, forcément. Les Allemands, au lendemain du match, ont repris les titres de presse français pour constater avec les médias français qu'il y avait eu effectivement un mauvais match. Le deuxième élément, ça c'est tout à fait objectif, le deuxième élément, c'est l'idée qu'un vice-champion du monde n'est pas un champion du monde. Alors c'est une petite pirouette, mais je l'ai lu ici ou là, c'est-à-dire que, on va en redire un mot, mais match référence sans doute pour l'Allemagne, mais attention aussi parce que l'adversaire n'était pas forcément dans les meilleures dispositions, a-t-on estimé. Et puis le troisième élément, c'est une question qui est resté sans réponse, c'est le fameux balancier. Est-ce que l'Allemagne a fait un super match et a réussi à éteindre et à étouffer l'équipe de France, ou est-ce que c'est pas aussi l'équipe de France? La question a été posée d'emblée dans les médias allemands, qui a manqué d'envie et qui a de son côté raté son match. Question qui a été laissée sans réponse par prudence, parce qu'il y a eu des résultats récents assez brinque-ballants côté allemand, donc on essaie de se méfier un petit peu de tout ce qui se passe. Mais l'idée peut-être qu'effectivement l'équipe de France n'a pas été à la hauteur sur ce match-là en tout cas.
L'Allemagne commence quand même à avoir un échantillon assez intéressant là récemment contre l'équipe de France, parce que certes il faut prendre des pincettes sur la prestation de samedi, mais c'est la deuxième victoire en 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, de la Mannschaft face aux Bleus. Est-ce qu'on commence à se griser un petit peu de mettre autant en difficulté l'équipe de Deschamps?
Alors non, ça n'est pas à ce niveau-là, mais on a constaté que c'était intéressant dans une mesure particulière, c'est que le contexte n'est pas du tout le même. À l'époque de l'automne dernier, Rudi Völler était en intérim, dirigeait l'équipe, et on savait qu'il allait ne pas rester sur du moyen ou du long terme. Et surtout, on était beaucoup sur la défensive, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver des fondamentaux, il fallait retrouver une intensité dans les duels, et à peine plus. Donc c'était vraiment une victoire qui permettait d'avoir un certain soulagement. Là, on est dans un stade plus avancé. Nagelsmann, l'entraîneur, le sélectionneur, a réclamé de l'envie, a réclamé de la prise de risque, a réclamé du jeu. Donc c'était beaucoup plus exigeant, beaucoup plus volontariste, on va dire, que l'équipe de l'automne dernier. Aujourd'hui, on se tourne vers l'euro et on veut enthousiasmer le public. Ça, j'en parle régulièrement. Et pour enthousiasmer le public, il faut prendre des risques, proposer du jeu, avoir des passes verticales. C'était l'un des reproches qu'on faisait dans le passé à un Toni Kroos. Aujourd'hui, on a vu à l'occasion du match de l'équipe de France qu'il était possible, quand on était dans cette équipe d'Allemagne, de retrouver cette ambition-là et ce panache-là. Donc, il y a une vraie différence entre les deux. Mais l'intérêt, je le répète, c'est que voilà, il y avait une équipe sur la défensive à l'automne, une équipe plus agressive aujourd'hui, et le résultat finalement a été le même, c'est-à-dire une victoire à Dortmund d'abord, une victoire en France plus récemment.
T'as parlé de panache, David. C'est effectivement ce qu'on a vu. On a vu une très belle prestation des Allemands. Je pose une question simple. Est-ce que c'est la prestation, le match référence de l'équipe de Julian Nagelsmann depuis son arrivée fin septembre dernier?
Ben, il y a un élément très important, c'est que on sait dans le football, il y a besoin d'un axe fort. Didier Deschamps parlait du besoin d'un très bon gardien et d'un très bon avant-centre, mais il y a aussi des maillons entre les deux. Et là, il y a un axe fort qui a été trouvé par Nagelsmann. Rüdiger en défense était partout où il fallait. Ça sera une pierre essentielle du système défensif. Devant lui, la connexion avec Toni Kroos. Rüdiger sait qu'il peut donner le ballon à Kroos. On a compris que son retour était vraiment essentiel. Il lui donne le ballon et Kroos organise ensuite. Toni Kroos, flanqué lui-même d'un joueur défensif. Robert Andrich de Leverkusen fait très bien le boulot pour sécuriser derrière Toni Kroos qui a plus de liberté vers l'avant. Devant ces deux derniers, Ilkay Gundogan, un peu avancé, qui a donc la liberté d'organiser les offensives. Et puis devant Gundogan à gauche et à droite, les deux artistes Wirtz et Musiala, qui seront, on l'espère, en Allemagne, concurrencés par Sané et Gnabry cet été, ce qui pourrait faire une émulation aussi devant. Et on a un axe fort. Et ensuite, pour le sélectionneur, ça dépendra de l'adversaire, bien sûr, s'il installe un avant-centre puissant comme Füllkrug ou plus fuyant comme Kai Havertz. Mais on a la sensation qu'il a trouvé là son ossature et je serais assez étonné qu'il en change encore. Puisqu'il y a le match contre les Pays-Bas, il y aura deux matchs de préparation ensuite, avec notamment la Grèce début juin, et puis ce sera à peu près tout. Donc maintenant qu'il a trouvé quelque chose qui fonctionnait, je pense qu'il va en rester sur cet axe fort. Ce serait étonnant qu'il remodifie encore son système.
Effectivement, Allemagne-Pays-Bas mardi, tu as commencé à l'évoquer, Florian Wirtz. On peut peut-être insister un peu sur le joueur du Bayer Leverkusen, parce que malheureusement, malgré la saison phénoménale de Leverkusen, c'est pas une équipe ou un joueur dont on parle forcément autant que certaines équipes de Première Ligue. Et pourtant, il est en train de réussir une saison absolument exceptionnelle. On voit ici et là des commentaires d'observateurs le citant parmi les tout meilleurs joueurs du monde actuellement, Florian Wirtz.
Oui, un mot très rapide d'ailleurs sur son avenir proche. Avec son papa, ils aimeraient, c'est son conseiller, ils aimeraient continuer avec Leverkusen avec des ambitions de bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est un petit cocon pour lui qui pourrait être tout à fait pertinent pour une saison de plus. Mais il va être tout de suite sollicité par des grands clubs, notamment le Bayern, qui sait que ce sera difficile de le récupérer, non seulement parce que ça sera assez cher, mais surtout parce qu'il va y avoir une concurrence, notamment vers l'Angleterre. Florian Wirtz, ce qui est impressionnant, c'est que non seulement il a de la liberté de s'exprimer et on connaît son talent, sa qualité de jeu de jambes, si je puis dire, sa qualité technique, passeur, buteur aussi, mais en plus, on l'a vu contre la France, il fait les efforts pour l'équipe. Alors ça, pour un sélectionneur, pour un entraîneur, c'est idéal. On a l'impression qu'il est en train de trouver là son plein potentiel, ce qui est bluffant quand même parce qu'il a été longuement blessé sur plus d'un an au total de difficultés avec une blessure difficile, puis la difficulté à se remettre en route. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a trouvé sa vraie carburation, offensivement très dangereux, très complet. Les efforts défensifs aussi pour aider les partenaires. Donc lui est indispensable pour son club et pour l'équipe nationale. Je vois pas comment l'entraîneur et le sélectionneur pourraient s'en passer pour les prochains mois, au même titre que Jamal Musiala, Bayern.
Bon, on les observera avec beaucoup de curiosité, ces deux joueurs, encore une fois, contre les Pays-Bas mardi. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler dans Tour d'Europe parce que la Bundesliga va bientôt revenir. Et évidemment, tu seras là pour en parler avec nous, David. Merci beaucoup. On te retrouve très vite.
Bonne journée à tous.
On rejoint l'Angleterre et notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que tout va bien et que ton week-end de football a été bon. Samedi soir, gros match qu'on a vécu juste avant oui. et même à cheval sur le match de l'équipe de France puisque l'Angleterre affrontait le Brésil. Très très beau match de très haut niveau tant dans l'intensité que dans la qualité technique. Mais à l'arrivée, oui. une première défaite pour l'Angleterre depuis l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'équipe de France. Philippe, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Et je te pose tout de suite la question un petit peu provoque, mais est-ce qu'on voit l'Angleterre un petit peu trop belle par rapport à tout ce qui s'est dit avant cette rencontre et tout l'emballement qui est autour des talents individuels de cette équipe?
Alors,
oui, ça en fait effet, beaucoup merci à la fois.
Ça fait beaucoup. Bon, première chose, en effet, le match était d'un très très haut niveau, d'une très grande intensité et très très ouvert par rapport à l'habitude. Ce qui d'ailleurs a été dû en partie, je pense, à l'engagement de cette très jeune équipe du Brésil, qui était une équipe un peu new look, qui manquait beaucoup beaucoup de joueurs. Martinelli, Thiago Silva, Ederson, Alisson, Gabriel Jesus, bon bref. Je ne dirais pas que c'était une équipe B, parce qu'on avait quand même Rodrigo et Vinicius devant, qui ont fait bien les misères d'ailleurs à cette équipe d'Angleterre, qu'on a vu le petit Hendrick, la nouvelle petite merveille, qui au passage est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué à Wembley, hein, à 17 ans et 246 jours, pour être tout à fait précis. Et une équipe du Brésil très agressive, je ne t'étonnerais pas si... En disant ça, quand tu sauras que Lucas Paqueta et Bruno Guimarães étaient en milieu de terrain, généralement, quand ces deux-là sont là, ça fait le ménage et ça le fait plutôt bien. Comme Jude Bellingham s'en est rendu compte, d'ailleurs, au passage, qui a été fauché à répétition. Mais bref, c'était un match de haut niveau. C'était un match, cela dit, dont on tire pas énormément d'autres conclusions que le fait que cette équipe d'Angleterre, son premier 11... Et de très très grande qualité, certainement devant, je pense, soutient la comparaison avec n'importe quelle autre équipe au monde, mais que par contre, quand il manque des éléments essentiels, c'est un peu plus compliqué. Et les éléments essentiels qui manquaient, en l'occurrence, c'est Bukayo Saka, qui a un petit problème musculaire et qui est devenu un titulaire indiscutable, bien évidemment, pour l'équipe d'Angleterre, comme il l'est pour Arsenal. Il sera prêt au passage pour le match contre Manchester City du week-end prochain. Et puis Harry Kane, bien évidemment, qui s'était blessé avec le Bayern quand il avait heurté un poteau en marquant lors du week-end dernier. Et donc, bon, Kane et Saka qui ne sont pas là, ça fait déjà une différence. D'autres joueurs qui, au passage, l'Angleterre a perdu d'autres joueurs pour le match contre la Belgique, parce que c'est vraiment les matchs de gala qu'on a en ce moment à Wembley. Kyle Walker, qui s'est blessé contre le Brésil, ne sera pas là contre les Belges. Et Harry Maguire également souffre d'un petit problème. Pour l'absence de Maguire, c'est peut-être moins un problème, mais bon, ça c'est une opinion personnelle. Mais c'est vrai que cette équipe d'Angleterre a paru assez fragile derrière, que certaines titularisations de Southgate pose peut-être problème, ou en tout cas on montrait qu'il y avait des zones dans lesquelles l'équipe d'Angleterre était loin d'être parfaite. Je pense au match de Conor Gallagher par exemple, c'était pas ça. Ben Chilwell à gauche a connu de gros problèmes, il revient de blessure c'est vrai, mais il a pas paru très en forme. Et du coup, bon, Luke Shaw est évidemment, qui sera le titulaire sur le côté gauche, était également absent. Kieran Trippier n'était pas là non plus. Bon, bref, c'est ça, je pense, les enseignements, entre guillemets, que l'on tire de ce match, à savoir que Gareth Southgate n'a pas fait l'objet de grosses critiques, parce qu'on savait très bien que le matériau qu'il avait contre les Brésiliens n'était, on l'espère en tout cas, pas le matériau dont il disposera lorsqu'il faudra jouer contre le premier match, je vérifie, c'est le 3 juin, contre la Bosnie-Herzégovine. Le premier match de cet Euro 2024. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il s'en est plutôt bien tiré. On a été un peu surpris, je pense, de la performance du Brésil, parce que très honnêtement, je ne sais pas si tu as vu la composition de la Seleção, mais je crois que les gens qui ne suivent pas le football brésilien de près, la moitié des noms ne leur auraient pas été familiers. Une équipe franchement expérimentale, mais qui était super remontée, qui a fait du bon boulot, qui s'est imposée, ma foi, tout à fait logiquement, puisque la plupart des grosses occasions ont été à l'avantage de cette jeune équipe brésilienne et pas de l'équipe d'Angleterre, où encore une fois, au passage, on a vu un Phil Foden très en retrait par rapport à ce qu'il nous montre avec Manchester City. Donc oui, des questions. Est-ce qu'on la voit trop belle? Je donnerai la réponse au mois de juin, pas avant. Je crois que là, on est dans les matchs de préparation, c'était l'avant-dernier. Le dernier, ça sera contre la Belgique ce mardi. On espère voir un petit peu plus que ce qu'on a vu. Je te confirme que Jude Bellingham est un excellent joueur. il a été fantastique. Mais bon, à part ça, c'est vrai que c'était une équipe qui était un petit peu de bric et de broc. Southgate n'était pas d'ailleurs au passage particulièrement désappointé. Il a mis en avant la qualité de la performance de Gordon, par exemple, sur le côté gauche. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui surprendra quiconque a vu Newcastle. Et puis également, je pense que le point positif, c'est le fait que Kobbie Mainoo de Manchester United, quand il est entré en jeu, on a vu la différence.
Ouais, effectivement, entrée prometteuse d'un joueur qui déjà affiche de très belles choses avec Manchester United. C'est ma prochaine question, justement, Angleterre-Belgique, mardi. Est-ce qu'on va voir aussi, parce que Harry Kane, Bukayo Saka ont quitté le rassemblement, est-ce qu'on va voir comme ça beaucoup de rotations, des nouvelles têtes? Est-ce que Gareth Southgate va être dans cette idée-là, mardi?
Je pense que de toute façon, il n'a pas vraiment trop le choix. Je pense qu'il y a eu de toute façon des pourparlers avec les clubs qui sont impliqués dans une course en
Ouais.
première ligue qui est la plus serrée depuis des lustres. Bon, Kyle Walker, par exemple, le fait qu'il ne soit pas là pour le match contre la Belgique, c'est pas parce qu'il est sérieusement blessé qu'il va manquer le match contre Arsenal. C'est plutôt, bon, il a joué un bout de match, il a ressenti une petite douleur à la cuisse, donc on le laisse tranquille. Non, ça va être l'occasion. Je pense que Mainoo, il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir commencer, débuter cette rencontre. Ça va être l'occasion de voir Ivan Toney également, parce que là, il avait donné sa chance, en l'occurrence,
À Holly
à
Watkins.
Ollie Watkins. Et Ollie Watkins, il a été à la fois satisfaisant et décevant. Satisfaisant dans la façon dont il a protégé le ballon, dont il s'est impliqué dans le jeu, et décevant face au but, je dirais, dans la surface de réparation. Là où on s'attendait, ou on voudrait en tout cas, qu'il fasse la différence, il n'a pas franchement été au top. Il n'a pas été non plus très très bien servi. C'est pas tout à fait la même disposition qu'à Aston Villa. Mais là, on va voir Ivan Toney, par exemple. Donc oui, il va y avoir des changements, et c'est un peu une revue des troupes, si tu veux, avant donc le match du 3 juin. Et puis aussi, Gareth Southgate est quand même aussi obligé de tenir en compte, de prendre en compte, pardon, le fait que ces joueurs, on arrive à la fin d'une saison, enfin à la fin. On arrive dans le dernier cinquième d'une saison qui était extrêmement intense. Il y a encore la Ligue des Champions pour les joueurs d'Arsenal et de Manchester City. Il y a la Ligue Europa pour d'autres. Hein. Il y a cette course au titre, donc il faut en tenir compte et bien évidemment ménager les organismes pour les clubs, mais également, on n'a pas envie, je ne pense pas que Gareth Southgate ait envie que les joueurs, au mois de mars, fin mars, se blessent et mettent peut-être en question leur participation à la préparation de l'Euro lui-même.
Bien sûr, on va faire une grande bascule justement. On parlait du football de club. On va basculer vers ce football de club et on va aussi basculer du terrain au backstage, entre guillemets, puisqu'on va parler, Philippe, d'Everton. Everton, dont on parle beaucoup ces derniers temps, pas forcément pour les bonnes raisons, puisque c'est pour des retraits de points, des sanctions suite au non-respect des règles du fair play financier. Alors, il y avait une annonce en septembre dernier, une officialisation du rachat d'Everton par 777 Partners, rachat qui devait être approuvé par la Première Ligue. Philippe, la question est toute simple. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle dans cette opération qui semble très complexe et qui fait beaucoup parler?
Où nous en sommes exactement? Lundi dernier, donc il y a une semaine exactement, la Première Ligue a communiqué à 777 Partners, bon, qui sont aussi les propriétaires de Genoa, du Standard de Liège, de Vasco da Gama, du Hertha Berlin et de notre Red Star National. Ils ont donc fait parvenir une lettre dans laquelle ils leur disaient qu'ils avaient l'intention de produire un avis favorable à la reprise du club. Donc, la reprise du club qui a été, comment dire, négociée entre Farhad Moshiri, l'actuel propriétaire, et 777 il y a de cela au mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes et beaucoup d'interrogations. Bon, je suis bien placé pour en parler puisque ça fait, je crois que j'ai maintenant consacré 17 articles avec mon ami Paul Brown à cette question pour le magazine Josimar. Mais bon, bref, en l'occurrence, où en sommes-nous? C'est qu'il y a des conditions. Et les conditions sont compréhensibles dans la mesure où il y a beaucoup de doutes et beaucoup de controverses autour de l'état exact des finances de ce groupe 777. Hein. Et les conditions sont draconiennes. Les conditions, c'est le remboursement d'un prêt qui a été consenti par un autre acheteur potentiel d'Everton de 158 millions de livres, donc ça nous fait 170 millions d'euros avant le 12 avril. Ça signifie mettre dans un compte bloqué les ressources pour que finir la construction du stade, finir la saison d'Everton. Enfin, au total, j'estime que ça voudrait dire que ce groupe, qui est endetté à hauteur de 4 milliards d'euros minimum, devrait produire dans les semaines qui viennent quelque chose entre les remboursements de prêts et l'argent en propre qu'ils doivent apporter, pratiquement 600 millions. Tu as bien entendu.
600 millions, c'est énorme.
Voilà, en cash, hein. On est bien d'accord. Hein. Il ne s'agit pas de des promesses, il ne s'agit pas de oui, on va investir ceci, on va investir cela. Non, 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 non. 600 millions. Au total, en incluant les remboursements de prêts. Donc, auquel il faut ajouter au passage le paiement des actions de Farhad Moshiri, même si c'est vrai que, vu la situation actuelle d'Everton que tu as décrite, déduction de points, problème relais, peut-être possible seconde déduction de points, relégation, bon, pas probable, mais possible. Et donc, du coup, ben, on est de nouveau dans cette zone de flou. C'est même plus que du flou. Où on se demande, mais de ce purgatoire que vit Everton, que vivent les fans également, qui ne savent pas à quelle sauce leur club va être mangé. Parce que d'un côté, bien évidemment, la Première Ligue n'a aucune intention, aucun souhait de voir un club comme Everton, qui fait partie des fondateurs de la Première Ligue, qui faisait partie du Big Five. On a un petit peu oublié ça à l'époque où la Première Ligue a commencé, en 1992-93. Il ne veut surtout pas que ce club tombe en faillite, en banqueroute, soit obligé de descendre de division en division, nous fasse ce que les Rangers ont fait en championnat d'Écosse. Ils ne veulent pas. Ils veulent donc un propriétaire et ils sont prêts sans doute à accepter peut-être des choses qu'ils n'accepteraient pas. Mais les critères ont été renforcés. Puis d'autre part, n'oublie pas que même si la Première Ligue disait oui, ok, on accepte cette vente, il faudrait ensuite que le board de la Première Ligue donne son accord et ensuite que ça passe devant une espèce de jury indépendant qui décide que oui, ce sont des propriétaires tels que ceux qu'on voudrait avoir en Première Ligue. Donc ça va traîner encore des semaines, voire des mois, à moins que les choses du côté de 777, ce qui est une possibilité, parce que ça va pas bien du tout dans ce groupe qui perd de l'argent à gauche, à droite, au milieu, partout, à moins que 777 ne soit obligé de se retirer ou soit se retrouve dans des circonstances telles que la reprise du club est devenue impossible. Donc c'est un calvaire hein, pour les fans d'Everton et franchement c'est une histoire qui malheureusement bon, ne domine peut-être pas les unes des journaux, mais en tout cas c'est une histoire qui est en train de plomber cette fin de saison de Première Ligue, enfin cette saison de Première Ligue, je dis depuis le mois de septembre, et je serais très surpris si on avait une réponse aux questions qu'on se pose sur le club avant la fin avril, début mai, voire plus tard.
On va suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe effectivement dans ce club emblématique de Premier League, comme tu l'as bien rappelé. Et puis on espère se reconcentrer sur des choses un peu plus réjouissantes et notamment sur des gros chocs qui nous attendent en Premier League, Philippe. Tu seras là pour en parler avec nous dans les prochains Tours d'Europe. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Philippe.
Merci. J'ajouterais juste une petite chose. J'ai
Oui.
oublié, parce qu'on a parlé des blessés de l'équipe d'Angleterre, mais j'ai oublié qu'il y avait quand même deux retours qui sont Cole Palmer, bon, qui fait des merveilles avec Chelsea, l'ancien Manchester City. Et puis alors là, par contre, ça fera jaser un peu plus Jordan Henderson,
Ouais.
après son passage en Arabie Saoudite et maintenant aux Pays-Bas où ça se passe pas trop trop bien. Mais Jordan Henderson, on sait que Gareth Southgate est un homme très loyal à ses lieutenants et Jordan Henderson a les galons pour ce faire et donc il sera sans doute impliqué dans le match contre la Belgique. Attendre de voir la réception du public, ça pourrait être intéressant.
Effectivement, merci pour ces précisions, Philippe. On te retrouve très vite. Bonne journée à toi. On termine ce Tour d'Europe en Espagne avec notre habituel spécialiste du football espagnol, Ana Caro. Salut Ana, j'espère que tu as passé un bon week-end de foot, même s'il n'a pas dû commencer très fort avec ce triste Espagne-Colombie de vendredi soir, défaite 1-0 contre la Colombie.
Ah ouais, c'était un match amical dans tout ce qu'on déteste. Pas de précision technique, pas d'intensité, enfin quasiment rien. À côté, je vois que Lucas Hernandez avait dit chez les Bleus qu'il manquait un peu de tout en côté français. Bah, pour comparer France-Allemagne et Espagne-Colombie, bah, il manquait beaucoup de tout en Espagne parce que vraiment, surtout la première période, on avait l'impression de voir un match de pré-saison. Il y avait pas grand chose à retenir, toujours pas de combinaison. C'est quand même ce qu'on attend un peu côté Espagne, de voir des joueurs qui sont habitués un peu à jouer ensemble. Mais vu qu'on a une liste qui tourne tout le temps et un coach qui semble un peu perdu aussi parce qu'il change assez souvent de schéma, là, il avait encore changé de schéma pour ce match-là. Voilà, on n'a pas assisté à du grand football. On espère que ce sera mieux pour le prochain match. Mais voilà, ça reste des amicaux et on voit que certains joueurs, en tout cas, n'ont pas grand chose à faire.
Bon, prochain match, justement, Espagne-Brésil, mardi, au Santiago Bernabéu, affiche alléchante sur le papier, surtout qu'on a vu un très beau Angleterre-Brésil ce week-end. Et ça va être le lieu de la rencontre entre le Santiago Bernabéu et sa future pépite, son futur crack brésilien, Endrick. Vous avez peut-être oublié un petit peu ce joueur, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais à la fois longtemps qu'on n'en a plus parlé. On le rappelle, joueur de 17 ans qui évolue à Palmeiras, que le Real avait officiellement signé en fin d'année 2022, mais qui ne rejoindra le Real que cet été à ses 18 ans. Anna, question toute simple. Est-ce qu'il y a une excitation déjà autour de ce match et de cette découverte d'Endrick mardi et plus globalement autour de son arrivée prochaine à Madrid?
Alors une excitation, mais très diminuée par rapport à ce que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'au moment de sa signature, effectivement, oui, il y avait une vraie excitation parce qu'en plus, à l'époque, il était en Copa Sudamericana, si je me souviens bien, ouais. Et il avait marqué énormément de buts. Donc, il y avait vraiment tous ces buts qui tournaient sur les réseaux madrilènes, etc. Il a marqué beaucoup moins avec Palmeiras parce que, bah, voilà, normal, hein, un joueur de 17 ans dans un championnat comme le championnat brésilien, c'est un peu compliqué. Donc, on va dire que la hype Endrick a un peu baissé, surtout que derrière, il y a eu le dossier Mbappé qui a pris beaucoup plus de place que Endrick, logiquement. Et c'est vrai que, alors, Endrick, du coup, était en une de la presse madrilène après son but contre l'Angleterre. Mais pour autant, on va dire que c'est plus une hype pour les plus jeunes, en fait. Les plus jeunes supporters madrilènes sont super heureux de le voir parce que c'est aussi un peu un phénomène de leur âge. Il est un peu dans ce délire de TikTok, etc. Donc voilà, il y a un peu... Mais c'est un peu la côté foot, en fait, qui fait qu'il y ait cette petite hype. Chez les plus âgés, il y a beaucoup moins de hype et certains même se demandent quelle va être la place de Endrick dans une équipe où potentiellement Mbappé va arriver avec des Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham. Donc il y a presque un peu de peur de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin-là dans notre équipe, parce qu'au final on a déjà beaucoup de monde en attaque.
Est-ce que justement c'est des choses dont on parle déjà? Est-ce qu'il y a, je dis n'importe quoi, des prêts déjà envisagés, ou est-ce qu'on n'en est pas du tout à ce niveau de réflexion-là? Parce que c'est vrai que Rodrigo, Vinicius, bon, ils ont eu besoin de temps, logiquement, pour s'adapter au Real.
Où Rodrigo et Vinicius, eux, ils sont passés par le Castilla, surtout, ouais. Qui a un bon niveau, qui est là, évolué en D3. Donc, c'est probable que Endrick passe un peu de temps d'abord au Castilla, surtout pour se faire à la culture, à la tactique, à la langue. Même si, justement, ce qu'il montre lui sur TikTok, c'est qu'il est prêt, qu'il a bien bossé côté linguistique, côté culture, et il en parle beaucoup, hein, de l'importance de s'immerger dans cette culture-là qui sera différente. On peut imaginer qu'il passe un peu de temps au Castilla. Pour autant, il n'y a pas pour l'instant de prêt qui est envisagé et c'est pas vraiment la politique du Real Madrid. Souvent, quand ils ont un jeune joueur comme ça qui ramène, on se rappelle de Degaard, on se rappelle de Arda Güler cette saison. C'est plutôt de le faire passer une année avec le groupe pro qui jauge un peu son niveau par rapport au reste, que lui-même progresse, parce que du coup, s'entraîner avec des Carvajal, etc., enfin même du coup Vinicius, Jude Bellingham, ça tire vers le haut, et de prendre décision à un an après, voir si on l'envoie en prêt ou pas. Arda Güler va partir en prêt normalement la saison prochaine. Et Endrick, lui, sans doute, va rester dans le groupe professionnel pour se faire à tout ça. Et peut-être que oui, si après un an passé à Madrid, il n'a pas le niveau, il sera peut-être envoyé en prêt ailleurs, mais c'est peu probable qu'il soit renvoyé directement au moment de son arrivée.
Peut-être un tout petit dernier mot autour de l'actualité du Real. Il y a eu cette conférence de presse de Kylian Mbappé avant le premier match des Bleus contre l'Allemagne, où globalement il a botté en touche. Est-ce que ça a eu un certain écho en Espagne, à Madrid? Est-ce qu'on en a parlé, ou globalement tout le monde est conscient que pour l'instant on n'en parle pas, mais que ça sera annoncé
Ce dont Madrid a beaucoup plus parler, c'est la déclaration de Tchouaméni dans Téléfoot hier, qui semblait quasiment acter que Kylian Mbappé allait être son coéquipier la saison prochaine. Et dans la mesure où Tchouaméni est donc déjà un joueur du Real, ses paroles pèsent d'autant plus. Et c'est vrai qu'il y a cette déclaration-là de Tchouaméni qui a été beaucoup reprise. Celle de Mbappé, elle a été reprise évidemment, mais on va dire qu'on commence à s'habituer du côté du Real à avoir ce genre de déclaration de Kylian Mbappé. Tant qu'il n'y aura pas une vraie déclaration un peu choc, c'est plutôt ce genre de déclaration annexe comme celle de Tchouaméni qui vont prendre le pas un peu sur ce que peut dire lui, Kylian Mbappé.
Bon, Anna, on va retourner un petit peu dans les coulisses du football espagnol pour parler de ce qui se passe encore du côté de la fédération. Alors, on avait quitté la fédération sur ses affaires autour de Luis Rubiales, qui avait fait grand bruit à juste titre. Et là, on reparle de cette fédération pour des perquisitions qui ont eu lieu très récemment. Tiens donc, le nom de Rubiales revient encore. Anna, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce bazar ?
Oui, alors c'était très surprenant parce que du coup, les perquisitions ont eu lieu un matin, enfin sur les coups de midi à peu près, mais l'équipe première, la Roja, était à l'entraînement à ce moment-là. D'accord. Donc on a vu la police débarquer avec son fourgon, etc. pour aller chercher des documents, pendant qu'à côté, il y avait toute l'équipe qui s'entraînait. Donc c'était un peu lunaire. En fait, la police est venue dans les locaux de la fédération, mais ils sont aussi perquisitionnés pas mal d'autres endroits, dont la maison de Luis Rubiales, parce que dans le cadre de l'enquête sur l'attribution de la Supercoupe d'Espagne à l'Arabie Saoudite, il y avait une enquête qui avait été ouverte. On se rappelle, il y avait Gérard Piqué qui était dans le lot. Et dans ce cadre de cette enquête, évidemment, la justice espagnole avait demandé un certain nombre de documents à la fédération, à d'autres responsables, etc. Documents qu'ils n'ont pas obtenus. Donc, dans la mesure où ils ne les ont pas obtenus, ils sont allés chercher eux-mêmes. Et ça a donné ces scènes un peu lunaires. Surtout que ça a pris des proportions assez drôles, on va dire. Parce qu'on préfère en rire côté Espagne, parce que ça commence à s'empiler comme ça, les affaires dans la fédération. Parce qu'en fait, ils sont allés perquisitionner le domicile de Luis Rubiales et puis il s'avère qu'il n'était pas là, qu'il était en République dominicaine. Et puis derrière, il y a Marca qui annonce qu'en fait, il demanderait peut-être la nationalité dominicaine pour s'installer là-bas, qu'il a fait du business. Et en même temps, vu que cette île est réputée pour son évasion fiscale, du coup, enquête sur une possible évasion fiscale de Luis Rubiales. Donc voilà, on a l'impression qu'on s'en sort jamais et que plus ça va, plus les affaires s'empilent, parce qu'en plus, au final, on apprend en cours de journée que en cours de perquisition, avec les documents qu'ils ont récoltés, ils ont ouvert d'autres enquêtes pour d'autres attributions, notamment la réparation du stade, enfin la rénovation du stade de la Cartuja où joue la Roja, où en gros, il a fait faire les travaux par un de ses amis, donc il y a des enquêtes pour des potentielles surfactures, etc., etc. Donc finalement, l'affaire Luis Rubiales sur le baiser forcé de Jenny Hermoso n'est toujours pas finie, puisqu'il n'y a pas de verdict de la justice. Mais on a l'impression que là, on a je ne sais combien d'autres enquêtes qui sont ouvertes en plus. Tant qu'on aura des dirigeants de la fédération qui sont plus ou moins liés à la présidence de Luis Rubiales, on risque de voir ce genre de scène se répéter. D'autant que, à cause des perquisitions, les élections sont pour l'instant repousser les élections de la fédération, parce que ce matin-là, le comité des élections devait fixer une date pour élire un nouveau président. Et du coup, la commission ne s'est pas tenue pour des raisons évidentes. Et maintenant, on doit encore attendre avant d'avoir une date de vote pour la présidence de la fédération espagnole.
À l'arrivée, est-ce que c'est pas un petit peu la déprime, entre guillemets, le foot espagnol en ce moment ? Parce qu'on a une équipe, en tout cas masculine, qui n'excite clairement pas les foules, ce qui se passe aussi en coulisses, comment c'est analysé tout ça ?
Là, on commence à avoir vraiment des médias qui commencent à vraiment taper sur leur fédération. C'était le cas beaucoup des médias catalans, évidemment, parce qu'en plus, eux, ils sont assez proches en plus de ce qui se passe dans la section féminine. Donc, ça fait longtemps, entre guillemets, qu'ils sont au courant de certaines choses. Et donc, du coup, on ne parle pas du tout d'évasion fiscale, mais de gestes déplacés, etc., qui ne cautionnent pas. Mais là, on commence à voir les médias madrilènes aussi, qui étaient beaucoup plus pro-fédération, pro-Luis de la Fuente aussi, du coup, le sélectionneur actuel de la Roja, et qui commencent à dire, en fait, c'est la honte, quoi. Tous les week-ends, tout le temps, on a ce genre d'affaires qui ressortent. Et Marca a d'ailleurs attitré au lendemain la Fédération Royale de la Honte. Voilà, parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol, en fait, de voir ce genre d'histoire continuer, sachant qu'en plus, quand s'est passée l'affaire Rubiales, donc sur le baiser forcé de Jenny Hermoso à Jenny Hermoso, il y avait une promesse de la part de Pedro Roca, qui est le président par intérim, de faire le ménage, ouais, de virer tous ces mecs hein, qui avaient soit des gestes déplacés, soit fait des magouilles pas très légales. Et en fait, on se rend compte que bah, il y en a encore beaucoup qui sont à la fédération, parce que ceux qui ont été interpellés, parce qu'il y a eu des interpellés à l'issue des perquisitions, sont encore dans la fédération, ou un lien plus ou moins avec la fédération. Et bah, voilà, il y a le sentiment qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de tout ce qui est ressorti ces derniers mois. Et ouais, c'est un sentiment de ras-le-bol, mais surtout de l'espoir de passer à autre chose. Et pour l'instant, en fait, ce qu'on sait aussi sur les élections, c'est que Pedro Roca, qui est donc le président par intérim, devrait être réélu.
D'accord.
Parce que vont voter en gros les présidents de fédérations locales, et qui sont favorables à Pedro Roca. Et ce qu'explique la presse, c'est que Pedro Roca, c'est la continuité de Luis Rubiales. Et donc, sans doute qu'on devrait voir, en tout cas, ceux qui traînent dans ces cas-là, dans ces affaires de justice, rester malgré tout à la fédération.
Bon, ça promet pas une évolution dans le bon sens. On espère reparler un peu plus de foot, en tout cas en évoquant le foot espagnol, avec ce beau Espagne-Brésil qui nous attend, et puis évidemment la Liga qui va reprendre ses droits ce week-end. Tu seras là pour en parler avec nous, Anna, dans les prochains Tours d'Europe. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Adrien Yo à la réalisation et Marco Popovic pour les visuels. On se retrouve, nous, lundi prochain pour reparler football de club. D'ici là, passez une bonne fin de trêve internationale et puis régalez-vous aussi d'autres choses que de football. Il y a le tennis, par exemple, sur les antennes d'Eurosport et sur le site eurosport.fr avec la suite du Masters 1000 de Miami. Voilà, vous avez de quoi vous régaler. Très bonne semaine. On se retrouve lundi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.